Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors elle part en courant. Elle va trouver Simon Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. » Marie est restée dehors près de la tombe et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe. Elle voit deux anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie, « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande, « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qui cherches-tu ? » Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit, « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle le reconnaît et lui dit en hébreu, Rabouni, cela veut dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père. Il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu. Il est aussi votre Dieu. Alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur !» Et elle leur raconte ce qu'il a dit.
Jésus est-il jardinier ou ressuscité? Vous rigolez. Mais dans ce texte, on voit que Marie ne reconnaît pas Jésus et elle le prend pour le jardinier. Qu'est-ce qui a empêché Marie de reconnaître Jésus comme le Sauveur? Qu'est-ce qui a empêché Marie, avec ses yeux, qui voyait bien les anges, qui voyait bien le tombeau, qui voyait le linceul, qu'est-ce qui a empêché Marie de reconnaître celui qui avait vaincu la mort? Avant d'y répondre, juste on va dresser un peu le tableau. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état du cœur de Marie? Quelle est la scène que nous avons vue, entendue? C'est le texte de Jean, chapitre 20, que vous pourrez retrouver dans vos Bibles. On voit Marie qui est face au tombeau. On voit Marie face au tombeau, les larmes d'un cœur brisé. Et la question lui est posée, pourquoi pleures-tu? Elle est en deuil? Oui. Elle ne trouve pas celui qu'elle cherche? Il y a de quoi être triste. Mais on lui pose la question, pourquoi pleures-tu? Et cette question, elle perdure encore aujourd'hui, en 2025. Pourquoi pleures-tu, toi qui m'écoutes? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui t'embrume? Qu'est-ce qui te trouble la vue pour ne pas reconnaître que Jésus est ici? Je sais que depuis tout à l'heure, certains se posent la question, ils sont en train de louer quelqu'un qu'ils ne voient pas. Mais je puis vous dire que mes yeux sont bien ouverts et je vois Jésus. Et que ma réalité ne m'empêchera pas de voir Jésus, celui qui a triomphé de la mort. Mais ici, ce n'est pas le cas de tous. Tout le monde n'a pas vu Jésus. Certains ont aperçu une silhouette et l'ont pris pour le jardinier. Mais Jésus est vivant. Jésus lui-même, après les anges, dira, « Mais femme, pourquoi pleures-tu ? Au final, je suis juste là, derrière toi. » Mais Marie, elle fait face au tombeau. Elle n'a pas regardé derrière correctement. Ses yeux sont pleins de larmes, embrouillés, embrumés, comme un voile est sur ses yeux. Dans ce jardin où tout a basculé, on va y retourner tous ensemble, au travers de ce texte. On va retourner dans ce jardin. Et peut-être que toi, ce qui te fait pleurer, c'est la mort de tes ambitions. Tu avais des projets. et ils s'arrêtent les uns derrière les autres. Peut-être que ce qui te fait pleurer, c'est la fin de ces rêves qui t'est cher à ton cœur. Ce qui te fait pleurer, c'est la fatalité de la maladie qui s'abat sur toi et les proches, et tes proches. C'est l'échec sentimental, familial, financier. L'échec nous fait pleurer. Qu'est-ce qui te fait pleurer ? Peut-être l'isolement, l'incompréhension, l'abandon ? Certains, ils n'ont rien demandé, ils sont des petits bébés et leurs parents ont déjà rompu le lien. Qu'est-ce qui te fait pleurer ? Peut-être même la déception face à ce lieu que tu fréquentes. Tant de raisons pour nous faire pleurer. Tant de raisons qui sont comme des voiles sur nos yeux qui nous empêchent de voir Jésus le ressuscité. Et Jésus te demande, qu'est-ce qui te fait pleurer ? Qu'est-ce qui vole ta joie ? Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux ? Qu'est-ce qui t'empêche de voir Jésus ? J'ai utilisé deux synonymes. Voir Jésus être heureux, c'est similaire. Parce que lorsque je pose mes regards sur Jésus, je peux vivre la vraie joie. Pas celle qui dépend des circonstances, non. Pas celle qui dépend de « est-ce que j'ai bien compris ma situation ? Est-ce que je suis épanoui dans toute ma vie, celle que j'ai rêvée ?» Non, il y a une joie qui peut perdurer au travers des épreuves. Et je crois qu'il est bon de nommer nos douleurs. Et peut-être tu as déjà commencé dans ton cœur ce matin. Peut-être qu'il y en a plein là qui sont en train de remonter, ta gorge est nouée. Il y a des choses qui te font pleurer. C'est pas ici, on ne va pas se donner en spectacle. Hein. Mais dans le lieu secret. On sait ce qui se passe quand on est face à nous-mêmes. Mais Jésus ne va pas juste s'arrêter en disant « Mais pourquoi pleures-tu ? » Il va s'arrêter et dire « Qui cherches-tu ? » Parce qu'au final, les raisons doivent nous amener, et toutes ces raisons que nous avons énumérées dans nos cœurs nous doivent amener à une seule chose, à faire une rencontre. Jésus te pose cette question « Qui cherches-tu ? » Qui cherches-tu ? Jésus ne se contente pas de consoler, non. Il t'invite à réfléchir à l'objet véritable de ta quête. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur ? Au-delà des apparences, au-delà des défis qui sont les tiens, et je ne pourrais pas me permettre de mettre ça aux oubliettes en disant bah, « ce que tu vis, bon, ça va, serre les dents, ça va passer ». Non ! On a des vraies raisons de pleurer, des véritables raisons de désespérer parfois. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Moi, je crois qu'il y a autre chose. Je crois que Jésus, s'il a dit « Pourquoi pleures-tu ?» Puis après, « Qui cherches-tu ?» C'est qu'il doit nous amener, et au travers de cette question, à chercher la bonne personne. Combien ici ont placé leur espérance dans des êtres humains ? Ont espéré recevoir l'affection d'une mère, la protection d'un père, et ont reçu tout l'inverse. Qui ici a déjà placé son espoir dans l'amour, le grand amour, et le foyer familial est un chaos ? Cette question nous pousse à regarder au-delà de la douleur. Les larmes sont comme un voile, oui, mais le voile a été déchiré. Le péché n'est plus. Les circonstances de ma vie ne doivent pas être un voile opaque. Elles doivent m'amener à aller plus loin. Parce que Jésus, qui ne se contente pas de te consoler, une petite caresse le long des cheveux, « Allez, ça va aller, je suis là. » Non, non, non. Il ne veut pas juste cela, il veut plus. Et toi, au final, qui cherches-tu vraiment ? Est-ce que tu cherches une solution d'un Dieu qui pourrait te guérir ? Alléluia ! Il est cela ! Mais il y a plus. Tu voudrais un Dieu qui pourvoie tes besoins pour remplir ton compte en banque ? Alléluia ! L'or et l'argent lui appartiennent. Mais il y a plus que cela. Tu cherches quoi ? Une famille ? Bienvenue à la famille Horizon ! Cette église est là pour t'accueillir. Mais il y a plus que cela, bien plus. Jésus veut te pousser à faire sa rencontre. Derrière chaque souffrance, il y a une quête, une soif d'amour, de paix, de justice, de vérité, de guérison. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que tu veux vivre, mais de qui tu veux rencontrer. Et tout commence par une rencontre avec celui qu'on a pris pour le jardinier. Toi aussi, tu l'as pris pour le jardinier. On ne va pas se l'avouer. Mais on a tous pris, on a tous eu à un moment une fausse vision de qui était Jésus. Une vision par le prisme de nos vies, par le prisme de nos échecs. Une vision de Jésus par le prisme de ce qu'il est vraiment. Au-delà de ce qu'il est vraiment, par ce que je suis, ma culture, mon éducation. Jésus veut que tu le regardes face à face. Et je sais que je vous gêne à venir chercher vos regards. Mais ce n'est pas moi qu'on regarde, c'est Jésus, ce matin. Moi, je veux juste être un outil entre ses mains. À chaque fois que tu te concentreras à regarder dans le tombeau, le cercueil de tes échecs, à chaque fois que ton regard ne regardera que ça, Jésus sera juste derrière et tu ne le verras pas. C'est dommage. Tu n'as pas envie de faire demi-tour. Parce que tu sais, au-delà de blâmer le jardinier, celui qu'on a pris pour le jardinier, tu peux être le jardinier de ton malheur, le cultivateur de tes larmes. Et je te pose cette question, est-ce que tu n'es pas toi-même le jardinier de ton malheur, à ressasser les choses qui ne vont pas, à chercher la faute sur quelqu'un d'autre, à essayer de blâmer l'injustice, à être un bon Français mécontent et râleur? Je vois qu'il y en a qui se reconnaissent. Si semblable à Marie, tu fais face au tombeau, tu deviens parfois le jardinier de ton propre désespoir. Quand ta vision est embuée par les larmes, tu entretiens ta douleur. Tu cultives l'amertume, la colère, la fatalité. Mais pendant ce temps-là, Jésus est juste là. Il est juste derrière toi. Il est tout près. Et pourtant, tes yeux n'arrivent pas à le voir. Jésus est juste là et dans Apocalypse 3:20, il dira, voilà, je frappe à la porte. Être devant la porte de quelqu'un, c'est vraiment être tout près du lieu où Jésus veut être, dans la maison de ton cœur. Et il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Et la Bible nous dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un, seras-tu ce quelqu'un ce matin? Et ce message, peut-être que les chrétiens ne s'y reconnaissent pas, mais ô combien j'aspire spirituellement que tout chrétien, toute âme qui vive, se reconnaisse à se dire, mais j'ai besoin d'arrêter de prendre Jésus pour le jardinier et de le voir comme il est, le ressusciter. Et Jésus se tient à la porte, il frappe, et si quelqu'un entend sa voix et qu'il ouvre, Jésus a dit qu'il rentrerait. Allah. Et pas pour prendre un fast-food, engloutir un burger et les frites qui vont avec, 3 gorgées de coca et il repart. Non, Jésus veut poser ses valises, il veut faire un repas à l'oriental, plusieurs dizaines d'heures, passer du temps avec toi chaque jour. Jésus veut venir au moment du repas. S'il est comme moi, il aime manger, ok, mais c'est pas, il y a plus. Il veut prendre ce temps qui est essentiel. La nourriture parle de l'essentiel de ta vie. Personne ne peut se passer de nourriture. Personne ne peut se passer de Jésus le ressuscité. Et tu as besoin de celui-ci qui veut rentrer dans ta maison. Mais revenons à Marie. Il a fallu de son prénom pour que tout bascule. Et peut-être qu'au milieu de cette foule, ce matin, ou dans la foule de ce monde, tu te sens comme noyé. Mais Jésus voudrait t'appeler par ton prénom ce matin. Et au travers de cette image, dans les guillemets qui sont là, dans cette bulle, que Jésus veut prononcer là où il a appelé Marie, j'aimerais que tu mettes ton prénom. Jésus t'appelle par ton prénom. Il t'appelle quand tu es dans le pire des scénarios, face au tombeau, quand tu es face à la mort, quand rien ne va. Il est juste tout près et il t'appelle par ton prénom. Il est juste là. Et un seul mot a permis d'ouvrir les yeux de Marie. Pourtant, elle l'avait déjà vu, mais elle l'avait pris pour le jardinier. Est-ce que Jésus s'est changé entre-temps? Non. Et il est toujours le même. Il n'a pas changé. Il est toujours celui qui est vainqueur sur la mort. Et ce matin encore, Jésus t'appelle par ton prénom. Et vous avez vu, ça paraît trop simple, hein, mais il suffit juste de faire demi-tour. Ça s'appelle la repentance. Ça s'appelle choisir de reconnaître que Jésus est la solution. Et ce matin, on est disposé dans ce cercle-là pour regarder à cette croix. Parce qu'elle est là, la solution. Jésus a porté le poids de ma condamnation, le péché qui m'éloignait de Dieu. Comme une feuille de papier, ce rideau a été déchiré, ce voile a été déchiré, un passage nous a été offert. Jésus a vaincu la mort. Il est vivant. Mais vas-tu répondre, maître? Pour les Hébreux, Rabboni, Rabbi, bon, nous on va parler français, maître, vas-tu le reconnaître comme le maître ? Mais pour pouvoir le reconnaître comme le maître, il faut d'abord qu'il soit le sauveur. Il ne peut pas le maître de ma vie s'il n'a pas effacé ma dette, s'il n'a pas nettoyé mon cœur. Et ce demi-tour signifie, Jésus, tu es la solution. Tu es la seule solution pour ma vie. Souvent, même les chrétiens, « Ah, Jésus, on le chante, ah, sauveur, maître, ah, on déclare des belles choses. » Mais quand on reçoit un préavis, un impôt, où est le ressuscité ? Il s'est déguisé en jardinier ? Qu'est-ce qui se passe ? Jésus, on le met humain dans une fonction. Il est vivant. Quand les malheurs viennent sur le chrétien, la Bible dit qu'il ne craint rien. Mais le vivons-nous vraiment par la foi ? Je ne dis pas qu'une mauvaise nouvelle ne nous fait pas pleurer, ne nous ébranle pas. Ouf. Je plaide coupable. Mais la vérité, c'est est-ce qu'il est vraiment le ressuscité de nos vies ? Est-ce qu'il est le réel maître, celui qui règne dans ta vie, celui qui doit décider de l'itinéraire que tu dois suivre ? Jésus ne fait pas un tir groupé. Hein. Il ne dit pas « Marie, et puis voilà, vous tous à Jérusalem ». Non. Il appelle Marie personnellement. Il est seul avec Marie. Jésus veut faire du sur-mesure ce matin. Il veut s'adresser en te regardant dans le blanc des yeux. Il veut te regarder en t'appelant par ton prénom, en nommant ta situation, en regardant ton tombeau, en regardant tes échecs, en regardant ton deuil, en regardant ta maladie. Et il ne se détournera pas. Parce que c'est ton âme qu'il cherche, plus que ce que tu traverses. Jésus t'appelle personnellement. Et Isaïe 43 nous déclare, « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Oh, » Tu es à moi. Jésus, il ne veut pas que tu sois son objet, il veut que tu sois son intime. Que tu aies comme cette alliance, tu fasses alliance avec lui. C'est ça quand on déclare qu'il est le maître. Regardez, en un instant, il n'y a pas eu tant de convalescence pour Marie. Il n'y a pas eu un temps de formation biblique dans un institut. Il n'y a pas eu un coaching serré avec un tuteur par-dessus. Il n'y a pas eu de « bon, ouvre Ésaïe, récite-moi le 6 ». Il n'y a pas eu tout ça. Jésus lui a dit « ne me retiens pas. Ne reste pas attaché à ce que tu vois avec tes yeux humains. Mais je vais te transformer, te restaurer pour que tu sois porteur d'une bonne nouvelle. » Et la première qui a déclaré que Jésus était vivant, c'était une femme. Quelle folie en Orient ! Déjà que c'est une folie pour nous encore en 2025, alors imaginez ! En Orient, confier la bonne nouvelle à une femme de cet acabit-là, Marie de Magdala, une femme de mauvaise vie. Elle était cela avant de rencontrer Jésus. Mais Jésus restaure tout. Il confond les sages par sa folie. Parce que oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Jésus veut utiliser les petits gens, les petites personnes, les gens que toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis « je ne vaux rien ». Ben, ça te tombe bien, tu es embauché. C'est ce qu'a fait Jésus. Il a utilisé cette femme qui avait été refoulée par la société. Et même quand elle vient le dire à Pierre et Jean, ils ne la croient pas. Les disciples disent « mais elle est folle celle-là ». Pourtant Jésus avait tout annoncé. Jésus veut se servir de toi. Mais il suffit que tu fasses un demi-tour, que tu arrêtes de regarder au tombeau, que tu regardes à Jésus, que tu regardes cette croix où Jésus a porté nos fautes, nos maladies, nos infirmités, nos limites. Il a tout porté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas resté sur la croix. Et il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti et il règne en majesté. Et il viendra chercher ceux qui auront cru. La question, c'est toi. Que vas-tu faire ce matin ? Et toi, si tu faisais demi-tour, si tu laissais Jésus t'appeler par ton nom aujourd'hui, t'es venu avec des attentes, des regrets, des blessures, un tas de reproches à faire à Dieu. Laisse tout ça au pied de la croix. Laisse tout ça à Jésus et tourne-toi vers lui. Jésus est vivant, c'est la bonne nouvelle. Il t'appelle, il te voit comme tu es et il veut se servir de toi pour être un témoin. Que ta vie serve de bon témoignage. Que la transformation de mon cœur, de mes pensées, de mes réactions, de mon espérance puisse servir et dire « Jésus, hey, il est vivant ». Moi, j'étais plein de haine pour mon père. Jésus a transformé mon cœur, je l'aime de tout mon cœur maintenant, aujourd'hui. Et je puis vous dire que mon père n'a pas changé d'un iota. Il s'est même aggravé avec le temps. Mais moi, c'est mon cœur qui avait besoin de changer. Alors l'appel, il se fait en cela. Ne reste pas face au tombeau. Tourne-toi vers celui qui est ressuscité. Cette croix fleurie que tu vois, symbolise que par sa mort, tu peux avoir la vie. Par sa mort à lui, une seconde chance nous est offerte. Parce que lui a été crucifié, parce que lui est ressuscité, nos dettes sont effacées. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et je vais faire un court appel. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Et si quelqu'un s'est reconnu dans ce message comme une Marie face au tombeau, et qui a besoin, mais c'est au-delà de ses forces, de faire demi-tour. Oh, je vais t'inviter ce matin, mon ami, à prendre une décision courageuse, à faire preuve un peu de folie dans ce monde beaucoup trop sage, et à venir à te lever devant ta chaise, en signifiant, moi, maintenant, je fais demi-tour, j'arrête de regarder à mon tombeau, j'arrête de regarder à ce qui est mort en moi, de ce qui est impossible, de tous mes échecs, toutes mes voies sans issue, j'arrête de regarder à mon infirmité, à ma vieillesse, peut-être à mon manque d'expérience par ma jeunesse, j'arrête de regarder aux limites et je veux regarder à Jésus-Christ. Si c'est ton cas ce matin, et si tu veux répondre, Jésus, me voici, je t'appelle maître, Rabouni, toi le ressuscité. Je t'invite à te tenir debout devant ta chaise. Jésus. Te lever devant ta chaise, ça va être aussi le symbole de j'abandonne ma vie. J'abandonne le contrôle. Et je reconnais que tu peux tout. Jésus. Oh Seigneur. Jésus, je voudrais te prier pour ceux qui viennent de se lever, qu'on fait le pas de la foi, qu'on osait braver le poids du regard des autres pour crouler sous le regard de Jésus. Et parce que Jésus, tu les appelles par leur nom personnellement, regardant leur situation, regardant leur vie, tu fais résonner ta voix dans les cœurs ce matin. Et je te prie, pour chacune de ces vies qui se tiennent debout devant toi, sois l'objet de la gloire de Dieu ce matin. Que les cœurs soient transformés, que les pensées soient transformées, que les priorités soient changées. Et que dans leur vie, Jésus soit vu. Et que ces personnes, ces âmes qui se lèvent devant toi, soient ces porteurs de la bonne nouvelle. Jésus, tu m'as libéré. Peut-être c'est un péché caché que tu veux libérer, une addiction dont tu veux être libéré. Lève-toi, simplement. Et tu dis, Jésus, je veux arrêter de regarder à ce que je n'arrive pas à me débarrasser. Je veux regarder à toi et à toi seul. Que mes larmes soient balayées par de la joie, un sourire qui vient de ce que tu illumines mon cœur. Viens maintenant, Jésus. 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 Tu fais grâce maintenant. Laisse Jésus devenir ton maître. Et laisse et abandonne ce passé qui veut faire de toi son esclave. Laisse Jésus devenir ton maître. Prends cette décision ce matin. Jésus. Jésus. Oh, kada desu. Jésus. Oh Seigneur, tu fais grâce. Jésus, tu fais grâce. Des nouvelles naissances ce matin. Le baptême de l'esprit pour certains. Les guérisons physiques, émotionnelles. Des guérisons spirituelles aussi, Seigneur. Tu guéris corps, âme et esprit. Les chaînes tombent, Seigneur, ce matin. Parce que tu es vivant. Tu es présent. Oh Jésus. Tu fais ton œuvre par ton esprit. Tu fais ton œuvre par ton esprit dans les cœurs. Que les cœurs les plus réfractaires puissent être touchés par ton amour ce matin. Même s'ils t'ont pris pour le jardinier, tu restes le même et tu es là tout près. Jésus, révèle-toi au cœur, Seigneur.